Tout grand rêve commence avec un rêveur. Souvenez-vous toujours que vous avez en vous la force, la patience et la passion qui vous permettront de toucher les étoiles et de changer le monde. Harriet Tubman. Chapitre 1. En y repensant, longtemps après, Alexandra Wickham s'apercevrait que son dernier été, un tant soit peu normal, remontait à 1939. À ce moment-là, 5 ans s'étaient déjà écoulés depuis sa première saison à Londres, un événement que ses parents attendaient avec impatience depuis son enfance. Elle-même avait rêvé toute sa vie de ce jour où elle serait enfin présentée à la cour. Depuis le premier bal donné en 1780 par le roi George III en l'honneur de son épouse la reine Charlotte, une grande soirée portant le nom de la souveraine offrait chaque année l'occasion à toutes les jeunes filles de la noblesse de faire leur entrée dans le monde. L'idée étant qu'elles attirent l'attention d'un homme de la haute société et qu'un mariage s'ensuive dans un délai relativement bref. Même si, près de 2 siècles plus tard, les parents modernes l'avouaient moins facilement, le résultat escompté restait le même. En 1934, Alex s'était donc pliée à la tradition. Elle avait été présentée à la cour du roi George V et de la reine Marie dans une délicieuse robe blanche en dentelle et satin signée Jean Patou. Sa mère l'avait emmenée à Paris pour les essayages. Avec sa haute taille, sa blondeur et ses traits ciselés, Alex n'avait pas manqué de prétendants. Ses frères William et Jeffrey l'avaient pourtant taquiné sans merci pour n'avoir pas su harponner un beau parti dès les premiers mois de son séjour à Londres. Il faut dire que les 5 o'clock auxquels on la conviait représentaient un bouleversement considérable par rapport à la vie au grand air qu'elle menait jusque-là. Férue d'équitation depuis sa plus tendre enfance, élevée à la dure par ses frères aînés, elle n'avait eu d'autre choix que de devenir un vrai garçon manqué. Changer de toilette matin, midi et soir s'était révélé plus fastidieux qu'elle ne s'y attendait. Alex avait noué de nombreuses amitiés parmi les autres débutantes, qui n'avaient quant à elle pas déçu les espoirs de leurs parents. La plupart s'étaient fiancées avant la fin de la saison. Mais à 18 ans, Alex n'était plus la petite fille qui jadis rêvait d'un mariage de princesse. Elle aurait préféré faire des études, aux grandes dames de son père qui n'en voyait pas l'utilité et de sa mère qui trouvait cela inconvenant pour une fille. Une armée de gouvernantes zélées lui avait transmis une grande soif de connaissances et l'amour de la littérature, tout en l'aidant à se perfectionner dans l'art de l'aquarelle et des travaux d'aiguille. C'était sans effort qu'elle avait appris le français et l'allemand. On n'en attendait certes pas moins d'une jeune lady de son rang, mais elle parlait de surcroît la langue de Dante. Elle dansait avec grâce et était une cavalière très convoitée dans les bals auxquels elle se rendait avec sa famille. Mais Alex ne brillait pas seulement par les figures de quadrille qu'elle exécutait à merveille, par son amour des lettres ou sa virtuosité dans les langues. « Vous êtes une femme d'esprit !» s'exclamaient les hommes qui la rencontraient, en découvrant son sens de l'humour et son franc-parler. Ses rapports avec les amis de ses frères relevaient de la camaraderie. En dépit de sa grande beauté, peu d'entre eux auraient imaginé l'épouser un jour. Quant aux rares jeunes gens qui avaient osé lui faire leur demande, Alex les trouvait mortellement ennuyeux. Elle n'avait pas non plus la moindre envie de rester coincée dans son Hampshire natal, à faire du point de croix au coin du feu et à élever une ribambelle d'enfants turbulents. Tout cela arriverait bien assez tôt, si jamais cela arrivait. Les 5 années suivantes s'étaient écoulées sans changement majeur. L'existence d'Alex était rythmée par les voyages avec ses parents en Europe et en Amérique, les chasses à cour, les fêtes et les visites à ses amis, dont plusieurs étaient déjà mères de famille. Elle assistait son père dans la gestion des terres, s'intéressant davantage au domaine que ses 2 frères, qui avaient fui le manoir pour la capitale. William était l'aîné. À 27 ans, son statut de pilote d'élite l'auréolait de prestige, et il menait une vie sociale intense. Sa réputation de don Juan le précédait, et à l'instar d'Alex et de Jeffrey, leur frère de 25 ans, il n'était pas pressé de se marier. Passionné par les aéronefs, il ne manquait pas une occasion d'assister à des courses aériennes, aussi bien en France qu'en Angleterre. Après ses études d'économie, Jeff avait pour sa part décroché un poste intéressant au sein d'une grande banque londonienne. « Leur vie est bien plus excitante que la mienne », soupirait Alex, dépité de se voir reléguée à l'arrière-plan, sous prétexte qu'elle était une femme. Lors de ses voyages à New York, elle avait constaté que les Américains étaient généralement plus ouverts d'esprit que les Anglais à ce sujet. Et même si elle adorait parler de politique avec son père et ses frères, tous trois lui conseillaient de ne pas aborder le sujet dans les dîners, sous peine d'effrayer ses prétendants. « Jamais je ne voudrais d'un homme qui ne respecterait pas mon opinion », répliquait Alex. « Tu finiras vieille fille si tu ne tiens pas ta langue et que tu ne cesses pas de courir la campagne à cheval », raillait Jeffrey. En réalité, ses frères étaient fiers de son intelligence, de son courage et de son audace. Ses parents, même s'ils n'en disaient rien, commençaient à s'inquiéter devant le manque d'intérêt de leur fille pour la vie matrimoniale. Mais à 23 ans, Alex était bien trop préoccupée par les affaires du monde. Elle écoutait la radio allemande pour suivre en version originale tous les discours de l'inquiétant chancelier Hitler. Elle en avait conclu, bien avant les événements de cet été 1939, qu'un conflit armé était inévitable. Entre-temps, son père et ses frères s'étaient eux aussi rendus à l'évidence. Ainsi, ce fut avec tristesse, mais sans surprise, qu'ils accueillirent le 3 septembre la nouvelle de la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et de la France à l'Allemagne nazie. La famille s'était réunie autour du poste de TSF pour écouter l'allocution du roi George VI, appelant tous les Britanniques à défendre leur patrie avec force et courage. À l'instar de la majorité de leurs concitoyens, les Wickham ne tardèrent pas à répondre présents. Les deux frères d'Alex s'enrôlèrent sans hésiter dans la Royal Air Force, Willie comme pilote de chasse et Jeff comme bombardier. De leur côté, Monsieur et Madame Wickham avaient décidé de participer à l'effort de guerre en accueillant sous leur toit une vingtaine de petits londoniens. Le gouvernement encourageait en effet l'évacuation des villes, et de nombreux parents recherchaient un abri à la campagne pour leurs enfants. Victoria, la mère d'Alex, avait commencé à aménager des dortoirs de 4 lits dans la dépendance où étaient hébergés les domestiques. La place ne manquait pas, d'autant que le personnel masculin du manoir était grandement diminué par la conscription. 3 femmes de chambre, aidées par 2 jeunes filles du village, prendraient soin des petits pensionnaires, tandis que 2 enseignantes de l'école s'étaient portées volontaires pour leur donner des cours tous les après-midi. Victoria espérait qu'Alex se joindrait à elle. La jeune femme prit ses parents de court en leur annonçant qu'elle partait à Londres conduire des camions et des ambulances pour venir en aide aux hôpitaux. Elle s'était portée volontaire pour remplir toutes les missions que l'on voudrait bien lui confier au sein de la First Aid Nursing Yeomanry, ou FANI, une unité d'infirmières à la discipline quasi-militaire. Quoique très fiers de leur fille, ses parents s'alarmèrent de la voir se jeter au cœur de la fournaise. Le gouvernement annonçait des raids aériens d'un jour à l'autre. Alex avait mûrement réfléchi à la façon dont elle pourrait mettre ses compétences à profit. Pas question de rester enfermée dans un bureau. Elle avait besoin de travaux plus physiques. Pour autant, elle ne se voyait pas éteindre des incendies, ni organiser des hébergements d'urgence ou distribuer des repas. Forte de son expérience sur les terres de ses parents, elle aurait facilement pu, après une courte formation, prendre la relève des exploitants agricoles mobilisés. Cependant, elle n'avait pas envie de demeurer dans l'Hampshire. La grande ville exhalait un charme nouveau, qui n'était plus celui des bals, des soirées au théâtre et des beaux atours. Londres avait tout à coup le parfum de l'aventure. L'idée de devenir l'une de ces conductrices ambulancières ne l'effrayait guère, car dès ses 17 ans, l'un des palefreniers du château lui avait appris à tenir le volant. De plus, la Fanny lui avait laissé entrevoir une possibilité d'évolution, avec des responsabilités plus importantes au fil du temps. Ses frères, qui venaient de terminer leur classe et attendaient leurs premiers ordres de mission, la prévinrent dans leurs lettres qu'ils la tiendraient à l'œil. Ils ne plaisantaient qu'à moitié. « Promets-moi d'être prudente », l'exhorta sa mère, les yeux pleins de larmes, le jour de son départ. Mais Victoria ne savait déjà plus où donner de la tête avec ses petits pensionnaires, âgés de 5 à 11 ans. Quelles que soient les missions que l'on confierait à Alex, ce serait sans doute moins difficile que de canaliser ce groupe turbulent. La jeune femme arriva à Londres en octobre. Le roi avait de nouveau pris la parole sur les ondes, saluant les efforts fournis par l'ensemble de ses sujets. Alex avait enfin l'impression de prendre part à quelque chose d'important. Au cours de sa formation, qui dura 1 mois, elle côtoya des femmes de tous âges, issues des milieux les plus variés et venues des 4 coins de Grande-Bretagne. Enfin, elle découvrait là cet horizon plus vaste dont elle aurait tant voulu bénéficier à l'université.